Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir l'Afrique, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 17 septembre 2014, en direct de Washington. Au micro, Chérubin Dorcil et Morgane Guiriec. Bonsoir Chérubin.
Bonsoir Morgane et bonsoir à tous.
Au sommaire ce soir, négociations intermaliennes à Alger. Les rebelles font de nouvelles exigences.
Nous avons vu dans la salle des négociations des éléments qui n'étaient pas belligérants, même pas signataires de l'accord de Ouagadougou ni de la feuille de route.
Voilà, nous aurons Moussa Agh Assarid, membre du MNLA.
Nous parlerons aussi d'un forum de la jeunesse au Mali.
En République centrafricaine, 10 personnes sont prises en otage dans l'ouest du pays par le Front démocratique du peuple centrafricain.
Le FDPC pose comme condition la libération de son leader Abdoulaye Miskine, détenu depuis le 16 septembre 2013 à Yaoundé, au Cameroun.
Incertitude en Écosse à la veille du référendum sur l'indépendance. Partisans du oui et du non sont presque à égalité dans les sondages.
En Ukraine, un jour après l'offre d'autonomie aux régions contrôlées par les rebelles, les combats se poursuivent dans l'Est, notamment à Donetsk. Et nous aurons les sports et la musique en fin d'émission, mais avant, le journal.
Le nord du Nigeria, de nouveau, théâtre d'une attaque. Des kamikazes présumés de Boko Haram ont attaqué un campus de Kano. Cité par l'agence France Presse, la police compte au moins 13 morts et 34 blessés. Selon le commissaire de l'État de Kano, les insurgés se sont précipités sur le campus de l'Institut fédéral d'enseignement supérieur après des échanges de tirs avec les forces de l'ordre à l'extérieur. Une explosion a fait sauter les vitres de l'auditorium et le plafond s'est effondré sur les sièges recouverts de sang, selon un journaliste de l'AFP.
Difficile négociation à Alger entre le Mali et les groupes du nord du pays. Pour la deuxième fois cette semaine, les rebelles ont quitté la table des négociations. En cause cette fois, la présence du groupe d'Haruna Touré. Cette formation avait refusé de signer la semaine dernière la déclaration commune des groupes armés. Ces derniers ne comprennent donc pas pourquoi le CMPFR participe aux négociations. On suit les explications de Moussa Agh Assarid, membre du MNLA, qui revient tout juste d'Alger.
Des négociations directes entre les deux parties en belligérance, elles n'ont pas vraiment commencé, puisque après les discours des parties et de la médiation, nous avons vu dans la salle des négociations des éléments qui n'étaient pas belligérants et qui se réclament de CMFPR, c'est-à-dire la coordination des mouvements et fonds patriotiques de résistance, de maître Haruna Touré et les responsables des Gatia, un nouveau groupe qui vient de se créer, et tous les deux ne sont pas belligérants, même pas signataires de l'accord de Ouagadougou ni de la feuille de route. Donc, n'étant pas belligérants, nous pensons, nous, mouvement de la ZOAD, mouvement belligérant de la ZOAD, qu'ils n'ont pas leur place dans cette salle-là. Nous voulons discuter directement avec le gouvernement du Mali.
Moussa Agh Assarid, joint par Nicolas Pinot.
Pendant ce temps, sur le terrain, dans le nord du Mali, le contingent tchadien tente de secourir les victimes de l'explosion qui s'est produite hier. Souvenez-vous, un véhicule civil a sauté sur une mine à 15 km d'Agelhok, faisant un mort et quatre blessés, dont une femme et un enfant. Agelhok, qui, d'après notre correspondant Boubacar Touré, devient la ville la plus dangereuse du nord Mali.
Le véhicule civil qui a sauté sur la mine a fait un mort et quatre blessés, dont une femme et un enfant. Le bataillon tchadien basé à Agelhok a immédiatement pris les mesures nécessaires pour sécuriser la zone et recueillir les victimes de l'attentat, selon une source de la force Barkhane basée à Gao. C'est la quatrième fois qu'un véhicule civil saute sur une mine dans cette zone qui devient du coup une zone à très haut risque et pour les militaires et pour les civils. Toujours dans la journée d'hier mardi, cette fois-ci dans la région de Tombouctou, une équipe de la station régionale de l'ORTM a été la cible d'hommes en armes à 45 km de la ville. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais le véhicule transportant les journalistes a été emporté par les agresseurs. Il faut rappeler aussi à ce niveau, ce n'est pas la première. Les enlèvements de véhicules et les braquages sur les routes reliant les grandes villes dans le nord du pays sont très courants, ce qui continue d'inquiéter les populations des régions du nord du Mali. Gao Boubacar Touré pour la Voix de l'Amérique.
En République centrafricaine, 10 personnes ont été prises en otage dans l'ouest du pays par les éléments du Front démocratique du peuple centrafricain, le FDPC. Le rapt survenu dimanche a été confirmé hier à Bangui. Ces hommes armés exigent la libération de leur chef, Martin Koumtamadji, alias Abdoulaye Miskine, détenu depuis septembre 2013 au Cameroun. On fait le point avec Félix Yepassi Zembro.
Les 10 personnes prises en otage par le FDPC sont des passagers qui revenaient de la frontière camerounaise à destination de Boire, dans l'ouest de Centrafrique. Leur kidnapping rapporté mardi a été confirmé par le ministère centrafricain de la Sécurité publique, mais sans beaucoup de commentaires. Aujourd'hui, l'inquiétude gagne leur famille. Celle-ci réclame des autorités de la transition une action rapide afin d'obtenir leur libération. De son côté, le FDPC pose comme condition la libération de son leader Martin Koumtamadji, alias Abdoulaye Miskine, détenu depuis le 16 septembre 2013 à Yaoundé, au Cameroun. À Bangui, par ailleurs, le parquet vient de lancer une vaste opération de contrôle du centre d'état civil à la mairie centrale. Selon Ghislain Grézengué, procureur de Bangui, cette opération vise à déceler les faux documents qui circulent dans la capitale.
Cette mission nous a permis de découvrir effectivement qu'il y a trop de faux documents qui circulent. Notamment, il y a des individus véreux qui établissent des faux jugements pour se voir délivrer des actes au niveau de la mairie. Et ça, nous avons constaté que beaucoup de jugements d'actes supplétifs de naissance sont des faux jugements.
Notons que cette opération va s'étendre progressivement dans les autres municipalités de la capitale et de l'intérieur du pays.
Au Rwanda, le président du Sénat a démissionné aujourd'hui. D'après le quotidien pro-gouvernemental New Times, cité par l'agence France Presse, Jean Damascène Ntawukuli Riayo a évoqué des raisons personnelles. Mais cette démission unanimement approuvée par les sénateurs intervient après sa mise en cause par 15 membres de la Chambre haute du pays, lui reprochant sa gestion au Sénat. Il reste cependant sénateur. Âgé de 53 ans, il était candidat à l'élection présidentielle de 2010, remportée, on se le rappelle, par le président en exercice Paul Kagame.
Djouba a assuré qu'aucun étranger travaillant au Soudan du Sud ne sera expulsé, revenant ainsi sur une circulaire obligeant les ONG et entreprises privées à remplacer leurs employés étrangers par des nationaux. Nathalie Binge.
Le gouvernement du Soudan du Sud n'expulse aucun salarié étranger, a déclaré devant la presse le chef de la diplomatie, Barnaba Marial Benjamin, au lendemain de la publication de la circulaire, indique l'AFP. Il a cependant ajouté que dans beaucoup de pays, les lois sur le travail réservent certains emplois aux nationaux et que le Soudan du Sud compte discuter et communiquer aux entreprises ce type de mesures. Le ministre du Travail, Ngor Kolongor, qui a sommé hier les entreprises et ONG de cesser d'employer des étrangers et de les remplacer par des locaux, a assuré aujourd'hui que les emplois réservés aux Sud-Soudanais ne concernaient que certains postes subalternes. En ce qui concerne la circulaire, nous ne parlons pas de postes techniques ou spécialisés tels qu'infirmières, chefs de mission, directeurs ou contrôleurs financiers, a précisé le ministre, soulignant que les agences onusiennes, les missions diplomatiques et les organisations internationales n'étaient pas concernées par la circulaire, qui a suscité de nombreuses réactions.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Écosse va-t-elle continuer à faire partie de la Grande-Bretagne? Les derniers sondages semblent aller dans cette direction, mais l'écart à combler reste très mince. Si le référendum prévu demain avait lieu aujourd'hui, 52% des Écossais se prononceraient contre l'indépendance, tandis que 48% voteraient oui. Ce qui fait l'espoir des indépendantistes et préoccupe leurs opposants, c'est que 8 à 14% de l'électorat est encore indécis. Le Premier ministre David Cameron se dit inquiet, mais confiant.
En Ukraine, les combats à Donetsk, dans l'est du pays, ont fait 2 morts parmi les civils. Ces incidents sont les premiers signalés depuis l'adoption par les députés ukrainiens d'un projet de loi offrant l'autonomie aux régions actuellement sous contrôle des séparatistes pro-russes. Jean-Roger Billon fait le point.
Le Parlement ukrainien a adopté des lois garantissant l'autonomie temporaire à certaines parties des régions de Donetsk, ainsi que l'amnistie aux rebelles, à l'exception de ceux qui sont accusés d'avoir commis des crimes graves. Les décès de civils dans la région de Donetsk ont continué toutefois d'augmenter en dépit de l'accord de cessez-le-feu Deux civils ont été tués et trois autres blessés lors de violents bombardements qui ont frappé un quartier résidentiel. Selon un décompte établi par l'agence France-Presse à partir de chiffres officiels de l'armée ukrainienne et des autorités locales, ces deux nouvelles victimes portent à 30 le bilan des morts, soit 14 civils et 16 militaires depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Les nouvelles lois proposées par le président ukrainien Petro Poroshenko visent à mettre fin à la rébellion séparatiste qui dure maintenant 5 mois et qui a fait environ 3000 morts et paralysé l'Ukraine politiquement et économiquement.
Alors que les États-Unis et leurs alliés se préparent à lancer une campagne d'envergure contre les militants de l'État islamique, le président Barack Obama a tenu ce mercredi une séance d'information avec ses commandants militaires concernant les détails opérationnels de cette campagne. Plus tard dans la journée, le président devait s'adresser aux troupes à la base aérienne de MacDill en Floride. Le chef du Pentagone, Chuck Hagel, a affirmé hier au Congrès que l'effort pour éradiquer l'État islamique est compliqué et prendra du temps. Une idée qui est en train d'être reprise à l'instant même à la Commission des affaires étrangères du Sénat par le secrétaire d'État américain John Kerry.
Par ailleurs, une chambre de mise en accusation américaine a inculpé un certain Moufid Elfghi pour avoir fourni un soutien matériel à la milice de l'État islamique. Il est accusé d'avoir recruté des membres pour l'organisation djihadiste et d'avoir conspiré de tuer des militaires américains. Selon le département de la justice, ce yéménite naturalisé américain a encouragé deux personnes à se rendre au Moyen-Orient pour se battre pour le compte des djihadistes.
Rapprochement entre l'Inde et la Chine, le président Xi Jinping effectue une visite de 3 jours à New Delhi et les deux puissances asiatiques ont signé aujourd'hui 3 accords sur l'augmentation des investissements chinois dans l'ouest de l'Inde.
Voilà pour le journal. Au micro, Chérubin Dorcil et Morgane Guiriec, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. On passe maintenant à la partie magazine de notre émission. Le gouvernement libérien se félicite de la décision des États-Unis de déployer 3000 militaires à Monrovia pour aider à enrayer l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Camille Grosdidier nous en dit plus.
La présidente du Libéria a qualifié la décision du président Barack Obama de déployer 3000 soldats en Afrique de l'Ouest de moment important dans la lutte contre le virus à Ebola. À Monrovia, les soldats américains coordonneront la livraison de matériel et la construction de 17 nouvelles infrastructures sanitaires de 100 lits chacune. Quelques 500 travailleurs de la santé seront formés chaque semaine et 50 000 trousses de santé seront livrées au Libéria pour aider les particuliers à soigner leurs parents à domicile. Le ministre libérien de l'Information, Lewis Brown, a lu un communiqué de Mme Johnson Sirleaf.
We hope this decision by the United States.
Nous espérons que cette décision prise par les États-Unis poussera le reste de la communauté internationale à agir. Nos partenaires américains se rendent compte que le Libéria ne peut pas à lui seul vaincre le virus à Ebola. Cette maladie n'est pas simplement un problème libérien ou d'Afrique de l'Ouest, souligne le communiqué de Mme Johnson Sirleaf. Le message de la présidente à ses compatriotes est simple, a poursuivi M. Brown. Nous ripostons. Mme Johnson Sirleaf avait fait appel aux États-Unis la semaine dernière, son pays étant le plus lourdement affecté par l'épidémie. Les Libériens en sont réduits à mourir en plein air sur la chaussée. Le président Barack Obama a été très clair, des dizaines voire des centaines de milliers de personnes pourraient contracter le virus à Ebola, l'épidémie étant sans précédent et devant être considérée comme une menace à la sécurité mondiale.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Paix et sécurité au Sahel, c'est le thème d'un forum qui s'est ouvert mardi à Bamako avec la participation de 300 jeunes Africains. La cérémonie d'ouverture était placée sous la présidence du chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta. Trois jours durant, ces jeunes vont débattre de deux thèmes. Crise sécuritaire dans l'espace sahélo-saharien, cause et état des lieux, et dialogue intergénérationnel en rapport avec l'intégration et la renaissance africaine. Parmi les orateurs attendus figurent des diplomates et des chercheurs réputés. Kassim Traoré revient dans ce reportage sur la cérémonie d'ouverture.
Ce forum est organisé par le Conseil national de la jeunesse du Mali sur recommandation du think tank malien Forum de Bamako. 300 jeunes leaders africains prennent part à ce forum.
Je suis Rive Jean-Félix, président du Conseil national de la jeunesse de Centrafrique. Moi, je pense que ce forum est d'une importance capitale parce que la question de la paix, comme l'a dit le président, sans la paix on ne peut rien faire, sans la paix on ne peut rien envisager. Et sans la paix aussi qui doit amener la jeunesse à réfléchir, à dire que trop c'est trop, il faut laisser, il faut penser à l'avenir et la jeunesse doit se mobiliser. Davantage et dire non.
À l'ouverture des travaux, les jeunes ont écouté pendant 30 minutes le président malien dans un discours bilan de la crise malienne. Certains jeunes ont eu l'occasion de lui poser des questions.
Paul Alema Vioga, je suis le président du Conseil national de la jeunesse du Gabon. Impossible d'envisager un développement naturellement sans la paix et la sécurité. Le terrorisme de manière globale freine le développement et empêche véritablement non seulement la jeunesse de s'épanouir mais au pays de connaître une croissance économique souhaitée, qu'on souhaite.
Le Mali vient de loin, dira le président du Conseil national de la jeunesse du Mali. C'est pourquoi il a lancé un cri de cœur lors de la cérémonie d'ouverture. Mohamed Salia Touré.
Le Mali, cette terre légendaire d'accueil, ne peut pas être une victime récurrente d'accidents graves institutionnels, de fractures citoyennes aux plaies sociales béantes, de souffre-douleurs pervers, de minorités criminelles ou vengeresses. Le Mali, surtout, ne peut pas et ne doit plus jamais ignorer, rejeter, frustrer, abandonner et laisser dépérir toute sa jeunesse.
En présidant la cérémonie d'ouverture de ce forum, le président de la République du Mali a fait la genèse de la crise du Mali. Ibrahim Boubacar Keïta fera savoir que cette crise n'est pas finie, mais qu'il reste optimiste.
Ensemble, nous pouvons et devons faire en sorte que tout soit perfectible, corrigeable, mais de grâce. Ne tombez pas sous le joug de ces nouveaux gourous qui n'ont qu'une ambition, celle de domination mondiale, de pouvoir absolu qui se traduit au quotidien par la terreur qu'ils infligent aux paisibles populations qui n'ont que le malheur de se trouver sur leur route.
Les participants à ce forum international proviennent d'Afrique du Sud, du Bénin, du Burkina Faso. Seule la Guinée-Conakry n'a pas pu faire le déplacement de la capitale malienne. La raison évoquée est le virus Ebola. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En Écosse, dernier jour de la campagne pour le référendum de demain sur l'indépendance. Trois sondages d'opinion montrent aujourd'hui une avancée pour les partisans du non à la séparation. Mais les indécis pourraient faire la différence, Lionel Gaïma.
Intervenant sur Sky News, le Premier ministre britannique David Cameron s'est dit nerveux, mais confiant dans le non des Écossais. Tous ceux qui tiennent au Royaume-Uni, et je me soucie passionnément de notre Royaume-Uni, sont nerveux. Mais je suis sûr que nous avons expliqué comment l'Écosse pourrait avoir le meilleur de deux mondes. Une économie qui marche avec le nombre croissant d'emplois que nous voyons aujourd'hui. Le taux de chômage qui est de 6% en Écosse est plus bas que celui de Londres, ce qui montre le succès de son économie. Alors, outre ce succès, en votant non, les Écossais auront en plus davantage de pouvoir et une plus grande voix au chapitre quant à la gestion de leurs propres affaires en Écosse. Selon l'agence France Presse, la victoire du oui constituerait un triomphe personnel pour Alex Salmond, un économiste de 59 ans, qui a su réveiller les ardeurs identitaires des Écossais. Depuis 20 ans, un tiers seulement d'entre eux partageait son rêve d'un nouveau pays parmi les 20 plus riches au monde. Il ne s'est pas contenté d'imposer à Londres son référendum, il a aussi contraint le gouvernement central à promettre l'octroi des nouvelles prérogatives, notamment fiscales, au Parlement régional en cas de succès du non, rappelle l'AFP. Selon les trois sondages publiés aujourd'hui, on estime à 48% le nombre d'Écossais qui voteraient pour l'indépendance, et à 52% celui de ceux qui opteraient pour le maintien au sein du Royaume-Uni. Il y aurait entre 8 et 14% d'indécis parmi les 4 300 000 électeurs écossais à la veille de ce référendum. Pour les partisans du non, le oui causerait des dégâts à l'économie écossaise, et perturberait la vie de tout un chacun si l'union de 307 ans avec l'Angleterre venait à sauter. Plus tôt dans la campagne, David Cameron avait dit s'attendre à un vote serré. Mais, a-t-il souligné dans une interview au quotidien The Times, « Quel que soit le résultat, nous sommes une démocratie et nous devons respecter la volonté du peuple telle qu'exprimée à l'urne. »
Washington Forum consacré ce jeudi à la situation en Centrafrique. Arrivée des casques bleus, nouveau Premier ministre, report probable des élections, la transition peut-elle encore être sauvée dans le pays? Laissez-nous vos commentaires sur notre page Facebook, ils seront lus en direct ce jeudi 19h temps universel pendant l'émission. La Centrafrique en débat, c'est ce jeudi sur La Voix de l'Amérique.
Et parlons maintenant du rap ivoirien qui a eu un énorme succès dans les années 80 et 90. Aujourd'hui, il n'est plus considéré comme une musique populaire, mais comme une musique de gosses de riches, dit-on. Mais le rap refuse d'être traité en parent pauvre. Et il a toujours un grand public à Abidjan. Son influence est palpable dans les styles maintenant à la mode. Notre envoyé spécial Idriss Fall est allé à la rencontre de quelques anciens du rap ivoirien.
Aux zones, l'officier supérieur du hip-hop.
Doere Koulibaly, alias Doy Integral Puzzle.
Kone Lassina, Lassi Djidja.
X Fontaine, animateur, producteur audiovisuel, radio, puis voilà.
Y'a Dongrié, Mankanyi, Etruya Da, Tougou, Moro Sougoulebe, Moro Yako, Tien Kafoko, Jamais de la vie, Nadente Ké, Dongri Labraye, Kassoro Otmana, Ko Dongri Labraye, Ni Domi Fe, Ibe, Dongri Labraye, Otmana, Moro Yadente, Wani Rap Mandie, Omangbere, Basite, Kafoko, Bratana,
Qu'est-ce que ça veut dire?
Dans ce couplet, j'incite les gens à respecter la culture hip-hop parce que, à tort, les gens disent que c'est une culture qui a été éclipsée par les autres, mais en réalité, quand les gens ont besoin de ce qui est bon, ce qui est réel, ce qui est vrai, ce qui parle aux gens, les gens se retournent vers la musique hip-hop.
Qu'est-ce que vous pensez être le principal problème des jeunes ici même en Côte d'Ivoire?
Je pense que les jeunes ont un problème de perspective, au fait. Vous prenez des quartiers populaires comme Abobo, où à l'époque, il y avait un centre culturel d'Abobo qui a donné une vocation à beaucoup de jeunes. Vous prenez un monsieur comme Kadjim, qui est une icône de cette musique en Côte d'Ivoire sur le plan international, est parti d'un quartier comme Abobo et a fait ses armes au centre culturel d'Abobo. Mais aujourd'hui, vous avez une salle comme ça qui est fermée et vous n'avez pas ce type de schéma dans les autres quartiers d'Abidjan, même étant des quartiers aussi populaires qui pullulent de jeunes qui n'ont pas véritablement de moyens pour faire de longues études, mais qui, à travers des cultures urbaines comme la culture hip-hop, qui peut donner ce type de perspective en termes de formation dans l'art graphique. On a des danseurs qui sont partis de la culture hip-hop. Les jeunes qui faisaient des graffitis dans la rue, qui sont devenus des graphistes avec la technologie et tout. Lui, il est animateur, mais il a un diplôme en anglais. Mais il n'y a pas de boulot, mais animateur, c'est un métier. Le hip-hop offre beaucoup d'opportunités. Dans la publicité aujourd'hui, les gens les plus utilisés sont les gens du hip-hop parce qu'on a trop de concepts. Quand on s'est rencontrés tout à l'heure, quand vous êtes sorti du taxi, vous avez dit tout de suite ghetto style, le t-shirt que je porte. Le dessin qui est sur le t-shirt là, c'est un tag propre à la culture hip-hop. Et aujourd'hui, la mode utilise ce tag là.
Les bonnes choses se font avec les vieilles marmites.
Là, c'est déjà, j'ai arrêté de faire du rap vivant, la musique rap, mais je peux me rappeler de mes anciens couplets. Émerveillé, je suis le soldat bien célèbre, ma voix s'élève, d'ici jusqu'à mes élèves, assez d'élèves véhiculent nos idéaux comme si c'était du vidéo.
Abidjan.
Tu te crois même dans
Idriss
une
Fall,
vidéo, au microphone, c'est là, c'est déjà, n'appelle pas le père.
Nicolas Pinot nous rejoint en studio pour les sports. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Sur les terrains d'Europe, suite des rencontres de la Ligue des Champions depuis 45 minutes.
Et oui, à la mi-temps, Gervinho a déjà inscrit un doublé avec l'AS Rome qui mène 4-0 au Stadio Olimpico à Rome face au CSKA Moscou. 1-0 au Camp Nou entre le FC Barcelone et l'Apoel Nicosie. L'entraîneur barcelonais Luis Enrique a fait souffler un vent de jeunesse sur son équipe en alignant notamment le gardien Ter Stegen, les milieux Samper et Sergi Roberto et l'attaquant Mounir. L'attaquant ivoirien Didier Drogba, revenu cet été à 36 ans à Chelsea, fête sa première titularisation de la saison contre Schalke 04, 1-0 à la pause pour les Blues. Et puis le défenseur central marocain Mehdi Benatia a fait ses débuts avec le Bayern de Munich contre Manchester City, où Yaya Touré retrouve sa place dans le 11 de départ, 0-0 entre les deux équipes à la mi-temps.
Il y a aussi d'autres rencontres à signaler.
Le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 à Amsterdam contre l'Ajax, match nul 0-0 0 entre Maribor et le Sporting Portugal. Même score entre l'Atlético Bilbao et Shakhtar Donetsk. Le FC Porto qui domine facilement le Bate Borisov pour le moment. 3-0.
Et hier, le Real a flambé.
Eh oui, au stade Santiago Bernabéu, le Real de Madrid a battu 5 buts à 1. Le FC Bâle, Christian Bell, Cristiano Ronaldo, James Rodriguez et Karim Benzema, le quatuor magique. Chacun des goleadors a inscrit un but. La Juventus de Turin l'a emporté 2-0 contre Malmö grâce à un doublé de Carlos Tevez. 3-2 pour l'Olympiakos face à l'Atlético Madrid. Liverpool s'impose 2 buts à 1 à domicile contre le Ludogorets. Et puis, victoire précieuse du Zénith Saint-Pétersbourg, 2-0 à Benfica. Et puis, courte victoire à présent de Monaco contre le Bayer Leverkusen, 1-0. Dortmund qui l'emporte 2-0 face à Arsenal. Et match nul et vierge 0-0 à Istanbul entre Galatasaray et Anderlecht.
La demi-finale allée de la Ligue des Champions en Afrique entre l'ESC Tif Algérie et le TP Mazembe de la RDC se déroulerait à huis clos.
Eh oui, réunie aujourd'hui, la commission d'organisation des compétitions interclubs de la CAF a pris cette décision contre l'entente sportive de Sétif en raison des incidents répétés et du comportement antisportif du public de Sétif en Ligue des Champions.
Et la CAN 2015, c'est en janvier prochain, mais on parle déjà des prochaines CAN.
Eh oui, la Confédération africaine de football annoncera ce samedi les pays qui organiseront les CAN 2019 et 2021, c'est loin. L'Algérie, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée et la Zambie sont officiellement candidats.
Voilà Nicolas Pinault pour les sports.
C'est l'heure de notre page musicale avec Roger Muntou. Bonsoir Roger.
Salut Morgane, salut Gabi. Gwen Stefani de retour, hein, son nouveau single Baby Don't Lie, bientôt sur les marchés des disques. Ce soir, on se contente de son ancien morceau Cool.
It's hard to...
Alors Gwen Stefani avait annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière solo, mais apparemment, elle a changé d'avis.
Morgan, c'est grâce à Pharrell Williams que la chanteuse américaine est prête à effectuer son comeback. Il s'est murmuré que son nouveau single s'intitulerait « Baby Don't Lie », tandis que son label a annoncé le 6 octobre comme date de sortie. Tic-tac, tic-tac, nous, on attend Morgan.
Gwen Stefani, cool. Merci Roger.
De rien Morgan, see you soon.
Vous retrouvez Roger Muntou tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Kids have grown up. We have.
Voilà, ainsi s'achève Le Monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Joselle Morissin a dirigé la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guiriec.
Et chez Robin Dorcine, merci à Joe Gill qui était à la console technique.
À demain.